On va parler avec notre ami Bernard Barry. Il y a un combat de championnat du monde en fin de semaine qui sera présenté d'ailleurs au réseau des sports opposant Castro Clayton, qui est un ancien protégé du groupe Jim et également du groupe Eye of the Tiger. Il va se battre contre un Ukrainien au nom du nom de Sergei Lipinets. On en parle avec notre ami Bernard Barry. Salut Bernard.
Oui, bonjour, bonjour. Ça va bien,
oui,
Danny?
Oui, ça va bien, ça va bien. Bernard, Castro Clayton, qui va se battre contre Sergei Lipinets. J'écoutais ou je lisais les analyses de certains sites Internet. On dit que Clayton a d'excellentes chances de l'emporter.
Oui, mais il n'est quand même pas favori pour les parieurs. C'est serré, mais en Lipinets, là, il y a tout un contrat. Lipinets avait d'ailleurs donné en 2018 tout un combat contre la grande vedette Mickey Garcia, là, tu sais, qui est encore classé parmi les meilleurs au monde. Et à ce moment-là, Garcia avait une fiche de 37 victoires, aucune défaite. Il avait perdu une décision unanime, mais il avait gagné des rounds. Et Lipinets, l'année passée, il a battu Lamont Patterson, qui n'est pas le dernier venu. Bon. Il avait passé knock-out au 10e round. Donc, il a fait ses classes. C'est un gars qui a fait aussi du kickboxing au niveau professionnel, donc qui a eu une carrière amateur relativement courte, qui a repris le championnat de Russie, surtout le championnat de Moscou, mais il s'est fait connaître là, à un autre niveau. Là. Comme je dis, son chemin a été plus en kickboxing professionnel avec quelques combats. Et écoute, son surnom, c'est le samouraï. Là. Fait qu'on sait que on va avoir beaucoup d'action parce que il va chercher le trouble en partant.
Effectivement. Clayton, écoute, c'est quel genre de boxeur que c'est? C'est un boxeur qu'on l'a connu pareil. On l'a connu, mais il ne semble pas un gars qui semble facile à gérer. Est-ce que je me trompe?
Ben là, il est déjà rendu à son troisième promoteur. Ouais. Il a commencé sa carrière avec nous ici chez Groupe Yvon Michel. Par la suite, il est allé avec Eye of the Tiger. Là, il est maintenant avec Lee Baxter à Toronto. Son entraîneur, c'est Éric Bélanger, qui est là depuis déjà un bon bout de temps à Ottawa, l'entraîneur d'Ottawa. Et Castro Clayton, c'est un boxeur de talent. Là. Ça fait longtemps, il a participé à une grande carrière amateur, il est allé dans des grandes compétitions internationales, il a même passé très près d'une médaille olympique. Il avait perdu en quart de finale contre Freddie Evans, qui représentait la Grande-Bretagne. 14-14. Donc, un seul petit coup de poing sur la cible et il était assuré d'une médaille. Et Evans s'était rendu en finale, il avait perdu en finale. Donc, on voit déjà, on savait déjà que c'était un boxeur de grand talent, rapide, brillant, expérimenté, quand même une force de frappe à respecter. De ses 18 victoires, aucune défaite, il y a 12 victoires par knockout. Et sa carrière va bien. Il a gagné son dernier combat au mois de janvier contre Diego Ramirez, qui avait quand même une série de 21 victoires, 3 défaites, et il l'a passé dans 4 à Toronto au 8e round. Donc, là, il est rendu là. Il a gagné plusieurs titres mineurs qui l'ont hissé à la première place. À un moment donné, il était aspirant numéro 1. Puis là, il a quand même reculé un petit peu. Mais là, en gagnant ce championnat du monde-là intérimaire, il faut bien le dire, c'est intérimaire, bien, il retrouverait officiellement là, sa place là, en haut de la liste là, pour les mi-moyens mondiaux.
Effectivement. Clayton, donc dans le cas de Clayton, ta prédiction pour ce combat-là?
Ah, ben moi j'ai l'impression que Clayton devrait gagner une décision, mais une chose est certaine, il a besoin d'être prêt en partant parce que sans aucun doute, là, Lipinets là, va se lancer dessus. Il va chercher le trouble. Il n'essaiera pas, Lipinets, de jouer au plus fin avec Clayton parce qu'il risque de terminer deuxième. Donc, lui, il va chercher la bagarre. Lui aussi, de ses 16 victoires, il a une seule défaite, comme j'en ai parlé tantôt, mais il a 12 victoires par knockout. Donc, c'est un boxeur qui est très intense. Un boxeur qui est né au Kazakhstan. Lui, sa façon de se bagarrer, lui, c'est la bagarre. Il cherche la bagarre. Et Clayton, ben, il est encore rapide, mais tu sais, il demeure qu'à 33 ans. Donc, on sait, la première affaire qu'on perd comme individu, c'est la rapidité. Lui, sa boxe est beaucoup, beaucoup axée sur la rapidité. Une rapidité exceptionnelle. Okay. Donc, là, pour que ça se passe dans les prochaines années, on est quand même chez les mi-moyens. Et chez les mi-moyens, là, ça va vite. À 33 ans, chez les mi-lourds ou chez les lourds, t'es très jeune. T'es jeune. Mais rendu chez les mi-moyens, là, faut pas que ça niaise. Faut qu'il y ait. Faut que ça se passe là. Et puis, il faut que ça, qu'il soit capable de, les trois prochaines années, là, que c'est là, là. Il faut qu'il soit capable de passer à la caisse et se faire un gros compte de banque.
Je regarde, Bernard, les 140, c'est les Errol Spence, de Terence Crawford, de Manny Pacquiao. Hey, c'est des gros noms, là. Tu sais, ça peut être.
On peut continuer, là. C'est Mickey Garcia, quand j'ai nommé tout à l'heure, ou Gas, le Chibin. Spence a déjà battu Clayton chez les amateurs. Tu sais, c'est une division qui a toujours été forte, là. C'est rare qu'on est arrivé avec un trou chez les 147 livres, là. Mm-hmm. Nous autres, on en a qu'à se rappeler la belle époque de Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns, et puis Pequeno Cuevas. Je te rappelle de tout ça, ces gars-là. C'était plus là en même temps et ça s'est perpétué par après. Et effectivement, avec tous les noms que tu as donnés là, il y a de l'ouvrage. Là. Donc, c'est compétitif, mais c'est payant. Si Clayton est capable de continuer dans la colonne des gagnants, ben à ce moment-là, il va vivre de grands moments, il va s'en faire vivre aussi et il va être en mesure d'assurer son avenir parce que chez les mi-moyens, les gens sont toujours intéressés. Chez les mi-moyens, c'est comme un milieu entre la puissance et la vitesse. Là. C'est tellement spectaculaire, généralement, ces combats-là. C'est des beaux athlètes.
OK. Bernard, avant de parler sur la scène internationale, je vais te parler de Lomachenko. Je vais te parler de sur la scène locale. Il se passe quoi avec les Marielle Dicker? Il me semble qu'elle devait se battre contre Clara Shields. On n'a plus entendu parler. Il se passe quoi avec ça, là?
Ben, on est encore en ligne, c'est là, c'est supposé être, tout avait été fait, les conférences de presse, donc il n'y a pas de raison. C'est là, c'est les circonstances qui fait que dans le moment, j'étais un peu dans la brume, mais Marielle Dicker s'en va nulle part ailleurs que contre Clarissa Shields, puis c'est la même chose pour Shields. Sauf que là, on attend pour voir comment on peut, tu sais, organiser ça. Regarde, tu as juste à voir, là, dans le moment, Top Rank Boxing, ont été capables de faire plusieurs galops de boxe dans des mesures là, sanitaires vraiment difficiles, alors que Golden Boy Promotion n'ont pas bougé. Donc, tu sais, tu as deux... Et c'est un peu ici avec Eye of the Tiger. Tu as la même chose avec Eye of the Tiger qui a commencé le deux semaines à Shawinigan. Puis, groupe Yvon-Michel, nous, on n'a pas encore bougé, nos boxeurs vont boxer à l'extérieur. On est vraiment dans un climat d'incertitude, on est dans le brouillard. Mais notre côté, pour Maria Piscard, c'est juste une question de date. Parce que il n'y a rien qui dit que ça ne se fera pas, c'est ça qui est prévu.
OK, on va se parler maintenant de Mamoudov contre Joshua. J'ai vu ça passer. Hey, penses-tu que, tu me l'as dit avant de l'annonce, c'est des rumeurs, il y en a tout le temps. Mais tu penses-tu que...
Oui, effectivement.
Oui, tu penses que ça
va arriver? Joshua, en étant en haut de la pyramide, tout le monde veut se battre avec, tout le monde lève sa main. C'est tout les top 10 mondiaux veulent se battre avec. Donc, c'est sûr que Mamoudov, lui-ci, lève sa main, comme tout le monde. Mais de notre côté, là, tu dis, Joshua, il y a quoi gagner, là? Il y a quoi gagner de.
Surtout comme Mamoudov, là.
Hein? Oui, mais risqué. Je veux dire, tu sais, dans le fond, dans le moment, il vient à peu près d'atteindre le top 15 mondial, Mamoudov, avec sa dernière victoire en entour. Ouais. Tu sais, ces gars-là regardent dans ce top 10 mondial, là, ils ne regardent pas dans le top 15, là. Donc, dans le moment, il n'est pas vraiment là, à moins que ce soit une défense optionnelle. Mais encore là, Joshua joue dans les millions, des millions, des millions. Qu'est-ce que Mamoudov peut y amener, lui, au point de vue négociation, ou au point de vue qu'est-ce qu'il va savoir mettre dans son compte de banque, là, tu sais. Donc, c'est certain que Mamoudov a probablement besoin d'une ou deux victoires contre des top 15 mondiaux. Pour là, se positionner un peu comme Rivas le fait, là. C'est Rivas, c'est dans le top 10 mondial. Il a bien paru contre Darren White. Lui, il est là. Lui, il a plus de chance parce que les gens le connaissent, ils l'ont vu. Il veut dire quelque chose, puis il est positionné. Mamoudov a besoin d'encore une ou deux victoires, mais il devrait l'avoir parce qu'écoute, il a du talent, il est fort, bien encadré, c'est un géant. Mais il faut qu'il prouve qu'il est capable de s'infiltrer dans le top 10 mondial. Pour à ce moment-là, quand tu lèves ta main, ben, là en haut, il te voit. Là, dans le moment, pas certain qu'il te voit lever sa main.
Effectivement. Bernard, Lomachenko, qui a perdu contre Lopez en fin de semaine, est-ce que c'est la fin de la carrière de Lomachenko?
Ah, pas du tout. Écoute, il va en avoir d'autres victoires et d'autres défaites, mais c'est sûr que ça a été tellement décevant. On a tous attendu ça. On était en manque, les amateurs de boxe. Et là, Lomachenko, là, on était vraiment quand on a dit wow, avec ce combat-là, le gars du Honduras, on se disait wow, là, c'est notre soirée, là, c'est, ça a commencé tard, puis ça a fini tard. Puis là, à ce moment-là, c'est sûr que tout le monde a été déçu parce qu'il n'y en a pas eu de combat finalement. Ouais. C'était bien plus du taponnage que n'importe quoi. Et c'était tellement, mais tellement décevant. Là. Lopez voulait bien, mais Lomachenko n'a pas embarqué. Et finalement, il lui a donné sur un plateau d'argent les 7 premiers rounds. À ce moment-là, là, ça va mal en maudit. Là. Puis 7 rounds où là, tu donnes des tapes sur le nez pour ne pas t'endormir sur ton divan. Là. Tu ne passes à rien. Là. C'est rien. J'étais malheureux pour Jean-Paul Chartrand puis Yvon Michel à la télé, comment c'était difficile d'essayer de tenir ça intéressant. Ouais. Là, par la suite, on a eu quelques bons rounds, où là, il y a eu des échanges, mais tu sais, trop peu, trop tard, puis finalement, ça n'a pas livré à marchandise. C'est sûr que pour Lomachenko, c'est une contre-performance, il n'a pas eu beaucoup dans sa carrière, mais dans sa vie. Là. Ce gars-là, il y a une défaite, 396 victoires chez les amateurs, une défaite à Chicago, championnat du monde en 2007, qui était là. J'ai eu la chance d'avoir cette défaite-là. Par la suite, 2 médailles d'or olympiques, trophée Valbarker, 2e au trophée Valbarker le coup d'après. Tu sais, ce gars-là, c'est exceptionnel. Il était champion du monde dans son 3e combat. Ça va pas d'allure. Fait que, tu sais, d'un autre côté, il n'est pas arrivé ben des malheurs à ce gars-là. Là, on peut même l'excuser. Mais c'est sûr que ça a été décevant pour les amateurs de boxe qui s'attendaient à une soirée 5 étoiles.
Ouais, regarde, effectivement. Bernard, gros merci. Au plaisir de se parler quand la boxe va léger.
Ah, plaisir, ça fait plaisir, Daniel, bonne fin d'émission.
Bernard Barré.